Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de la capitale américaine, jeudi 27 septembre 2018, Le Monde aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir, au Cameroun, 6 civils et 2 policiers ont été tués à Boya et Limbé, en région anglophone. Mali, 7 soldats et 1 civil tués par l'explosion d'engins artisanaux dans le centre du pays. Une épidémie de choléra a tué 67 personnes au Niger. Et ici aux États-Unis, Christine Baslie Ford témoigne devant la commission judiciaire du Sénat. Elle accuse le candidat de Donald Trump à la Cour suprême de l'avoir agressé sexuellement. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. Au Cameroun, 6 civils et 2 policiers ont été tués hier et aujourd'hui à Boya et à Limbé, dans le sud-ouest anglophone, en proie à un conflit entre forces de l'ordre et séparatistes armés. Le point avec Idriss Fall.
La nuit dernière, 2 policiers ont été tués et une policière blessée dans la cité balnéaire de Limbé. Les assaillants ont pris les victimes par surprise alors qu'elles se trouvaient à leur poste. Une source sécuritaire ajoute que 2 armes ont été emportées. Dans la cité voisine de Boya, 6 civils ont été abattus aujourd'hui par des policiers et un autre a été blessé à Babouti, quartier du centre-ville. Soldats et séparatistes ont par ailleurs échangé des tirs à Bamenda, chef-lieu du nord-ouest anglophone. Selon International Crisis Group, depuis le début de l'année, au moins 400 civils ont été tués ainsi que 172 membres des forces de l'ordre. La campagne a déjà commencé pour le scrutin présidentiel prévu le 7 octobre. 9 candidats sont en liste, dont le président sortant Paul Biya. La tension ne cesse de monter dans les zones anglophones où les séparatistes ont promis d'empêcher la tenue du scrutin.
Et toujours au Cameroun, la compagnie ferroviaire Camrail, jugée mercredi avec 10 de ses agents, a décidé de faire appel de la décision du tribunal. La filiale du groupe français Bolloré a été condamnée pour homicide, blessure involontaire dans le déraillement qui a fait 79 morts et 600 blessés. Camrail affirme avoir déjà indemnisé la plupart des familles des victimes. Au Mali, 8 morts, 7 soldats maliens et 1 civil, un véhicule des forces armées et 2 camions ont sauté sur des mines avant d'essuyer des tirs. L'attaque a eu lieu entre Douenza et Bambara Maoudé dans le centre du pays. On fait le point avec Kassim Traoré, notre correspondant au Mali.
Douenza et ses alentours deviennent une emprise des djihadistes. Cela s'est illustré par plusieurs attaques en début de semaine. C'est dans ce contexte qu'une mission des FAMA est tombée dans une embuscade. Il s'agit de la mission d'escorte du Jetia Debo et de 2 camions civils. En provenance de Bambara Maoudé, destination Douenza, ils ont sauté sur une mine à peu près 50 km au nord-est de Douenza. Le bilan fait état de 8 morts, 8 blessés, dont 1 évacué sur Bamako. Selon nos informations, la dite embuscade a été menée par 2 véhicules Kia équipés de mitrailleuses de 12-7. Avant cette explosion, un véhicule de Barkhane avait aussi sauté sur une mine au sud-ouest de Kidal. Dans les environs de Bambara Maoudé, le poste de la gendarmerie a été attaqué vers 18h. C'est ainsi qu'ils ont enlevé 2 civils dans le petit village de Gengourou, dans la commune de Gossi. Ces hommes armés sur des motos ont disparu dans la nature. Actuellement, un ratissage de l'armée malienne et ses partenaires est en cours dans la zone de Douanza et sur l'axe Douanza-Gao, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Par ailleurs, l'armée française a largué 120 parachutistes dans la région de Ménaka, dans le nord-est du Mali, dans le cadre de l'opération Barkhane. Cette opération permet de compléter le dispositif en place dans cette région, proche de la frontière avec le Niger, expliquent les forces françaises. On combine différentes capacités pour créer un effet de surprise chez les groupes armés terroristes et pour montrer à la population qu'on est capable de venir rapidement, souligne l'état-major français. Guinée, des gendarmes ont violemment dispersé à Conakry une manifestation de soutien au président de la Cour constitutionnelle, Khelefa Sall, désavoué par les autres magistrats de cette instance. Les forces de l'ordre ont d'abord fait usage de gaz lacrymogène, puis ont battu les manifestants avec des coups de matraque. Par ailleurs, 5 ONG guinéennes et internationales ont réclamé aujourd'hui la tenue l'an prochain du procès emblématique du massacre de septembre 2019 dans un stade de Conakry où plus de 150 opposants avaient été tués, une centaine de femmes violées. L'instruction sur le massacre du stade du 28 septembre 2009 est clôturée depuis fin 2017. Personne n'a encore été jugé en Guinée selon ces ONG. Nigeria, l'armée a repoussé une nouvelle attaque contre une base militaire dans le nord-est du pays. L'attaque de Gachingar dans l'état de Borno a été attribuée à la faction de Boko Haram affiliée au groupe État islamique. Et c'est la dernière d'une série visant des bases militaires dans le nord-est, malgré les déclarations officielles selon lesquelles Boko Haram est en passe d'être vaincu. Et dans le nord du Nigeria toujours, 16 mineurs ont été enlevés dans l'état de Kaduna, dans une région connue pour les kidnappings contre rançon. Ils voyageaient dans un camion quand ils ont été interceptés près du village de Bogoma par un gang de kidnappeurs qui les a emmenés dans un lieu inconnu. Aussi, les deux principaux syndicats de travailleurs au Nigeria ont lancé une grève nationale. Mot d'ordre lancé après l'échec de plusieurs mois de discussions avec le gouvernement sur les conditions de travail et le niveau du salaire minimum. Selon les informations recueillies par l'AFP à Abuja et à Lagos, seules les administrations publiques étaient affectées ce jeudi. L'émissaire de l'ONU pour la République centrafricaine, Parfait Onanga Onyanga, souhaite de la transparence dans l'approvisionnement d'armes à l'armée centrafricaine par la Russie, la Chine ou les États-Unis. Au lendemain d'une nouvelle demande du président Faustin Archange Touadéra devant l'Assemblée générale annuelle des Nations unies de levée totale de l'embargo sur les armes pesant sur son pays, le chef de la force de paix MINUSCA juge que le besoin d'armes pour la Centrafrique est indéniable. Une épidémie de choléra a tué 67 personnes au Niger sur plusieurs milliers de malades recensés, principalement dans la région de Maradi, proche du Nigeria. On fait le point avec Nani Talani.
Un bilan onusien du 10 septembre avait fait état de 55 décès sur 2752 cas. La région de Maradi, dans le centre sud, à la frontière avec le Nigeria, constitue l'épicentre de la maladie avec 55 décès et plus de 3200 cas recensés. Selon le rapport du ministère nigérien de la Santé, 22% des malades de Maradi proviennent du Nigeria, où le choléra sévit dans certains États fédérés. Mais à ce jour, moins d'une centaine de malades sont encore gardés dans les sites d'isolement pour les traiter gratuitement. Le ministère avertit que l'épidémie s'est aussi étendue, avec moins de gravité, à trois régions, dont celle de Dosso, Tawa et Zender. Il annonce par ailleurs un renforcement de la surveillance à travers le pays et appelle les populations à la vigilance. Une campagne de sensibilisation contre le choléra est également lancée sur les radios locales. La riposte contre la maladie est menée avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, Médecins sans frontières France, la coopération italienne et l'Union européenne.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la commission judiciaire du Sénat entend depuis ce matin le témoignage du docteur Christine Baselley Ford qui accuse le candidat Donald Trump à la Cour suprême de l'avoir agressé sexuellement quand ils étaient tous les deux des adolescents. Brett Kavanaugh, qui a vigoureusement nié ces accusations, devrait aussi faire face au sénateur Abdourahmane Dia.
Christine Blasey Ford a dit être terrifiée d'apparaître devant la commission judiciaire du Sénat, mais que son témoignage est un devoir civique. La voix en sanglots, elle affirme.
I am here today not because I want to be. I am terrified.
Je ne suis pas ici aujourd'hui parce que je le veux. Je suis terrifiée. Je suis ici parce que j'estime qu'il est de mon devoir civique de vous dire ce qui m'est arrivé lorsque Brett Kavanaugh et moi étions au lycée.
Et Dr. Ford de poursuivre, je croyais qu'il allait me violer au bord des larmes en racontant avec des détails de cette soirée. Pendant très longtemps, j'avais trop peur et trop honte de le raconter à qui que ce soit, a-t-elle dit pour expliquer pourquoi elle avait longtemps gardé le silence sur cette agression qui, selon elle, est revenue la hanter épisodiquement dans sa vie d'adulte. Brett Kavanaugh nie catégoriquement ces allégations. Il aura lui aussi la chance de se défendre devant les sénateurs juste après Christine Blasey Ford. S'il n'y a pas de changement, la commission devrait passer au vote demain avant que le Sénat, dans son ensemble, ne décide du sort de Kavanaugh qui, s'il est confirmé, penchera la Cour suprême vers la droite.
Nouvelle attaque des talibans en Afghanistan. Plusieurs roquettes ont été tirées ce matin en direction du président Ashraf Ghani pendant qu'il effectuait une visite dans la province de Ghazni. Le président Ghani était à l'intérieur du palais du gouverneur quand les roquettes ont été tirées. Il n'y a pas eu de blessés. La coalition internationale anti-djihadiste menée par les États-Unis en Syrie et en Irak reconnaît la mort de plus de 1100 civils au cours de frappes aériennes depuis le début de l'opération Inherent Resolve en 2014. La coalition a mené plus de 30 000 frappes au total entre août 2014 et août 2018. La coalition a également précisé dans ce communiqué avoir achevé en août l'examen de 60 signalements de victimes civiles potentiels dont 52 ont été jugés non crédibles. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Nanit Talani.
Le prix du pétrole pourrait atteindre 100 dollars le baril à la fin de l'année ou début 2019. Avec l'entrée en vigueur de sanctions américaines contre l'Iran, selon les groupes de négoce Trafigura et Mercuria. Les pays producteurs de pétrole devraient se préparer à une volatilité au quatrième trimestre, car le marché n'a pas la réponse appropriée en termes d'offres à la disparition de 2 millions de barils par jour que produit l'Iran. Le Cameroun et le Gabon ont perdu leur place sur les exportations du bois vers le marché européen au profit de l'Indonésie qui a réalisé une augmentation de 7%. Les exportations africaines ont été sérieusement affectées par les problèmes logistiques et de trésorerie des grands opérateurs européens dans le secteur du bois en Afrique centrale. Ces derniers mois, le groupe français Rouget, exploitant forestier, a fini par céder ses actifs au Cameroun et en Centrafrique, ne conservant désormais que ses concessions forestières au Gabon. Au Burkina Faso, la compagnie minière Teranga Gold a annoncé une augmentation de 450 000 onces à 1,61 million d'onces, plus de 40% des réserves minérales prouvées et probables de sa mine d'or au Wagnon. Les nouvelles estimations se basent sur quatre gisements situés à Nogbélé, Fourkoura, Samavogo et Stinger.
Chaîne sur les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
La SEC Mimosa et son président ont été sanctionnés.
La Fédération ivoirienne de football a officialisé les sanctions qui vont frapper le club d'Abidjan et son président Roger Ouénien à la suite des propos jugés outranciers tenus par le dirigeant et du refus de son club de prendre part à la Super Coupe de Côte d'Ivoire début septembre. Monsieur Ouénien a écopé de 12 mois d'interdiction de stade et d'une amende de 5 millions de francs CFA. Pour sa part, la SEC est suspendue pour les deux prochaines éditions de la Super Coupe de Côte d'Ivoire et devra s'acquitter d'une amende de 5 millions de francs CFA.
Noël Toussy, nouveau manager général du Wydad Casablanca.
Le Wydad Casablanca change de stratégie après son élimination de la Ligue des Champions par l'Entente Sétif d'Algérie. Alors que le poste d'entraîneur a été laissé vacant par Abdelhadi Sétioui, qui assurait l'intérim jusque-là, les dirigeants du club marocain ont annoncé la nomination de Noël Toussy comme manager général. Le technicien français de 59 ans retrouve ainsi l'Afrique où il a déjà travaillé. Noël Toussy a en effet été entraîneur du Congo et de la Mauritanie.
En Europe, l'Allemagne organisera l'Euro 2024.
Et oui, l'Allemagne qui était en concurrence avec la Turquie a été désignée ce jeudi par l'UEFA pour organiser l'Euro 2024. La compétition réunira 24 sélections pour 51 rencontres disputées dans 10 stades, dont l'Allianz Arena de Munich et le Stade Olympique de Berlin. La dernière grande compétition organisée par l'Allemagne était le Mondial 2006. Le prochain Euro en 2020, lui, sera organisé dans 12 pays. Le précédent 2016, on se rappelle, qui s'est tenu en France, a été remporté par le Portugal.
Et puis un seul match de suspension pour Cristiano Ronaldo.
La star de la Juventus Turin, exclue lors du premier match de la saison en Ligue des Champions à Valence, n'a écopé que d'un match de suspension. Ronaldo sera donc disponible pour la double confrontation avec son ancien club de Manchester United les 23 octobre et 7 novembre. Le Portugais de 33 ans avait été exclu dès la 29e minute pour une altercation avec le Valencien Jason Murillo.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Au Niger, une épidémie de choléra a tué 67 personnes sur plusieurs milliers de malades recensés, principalement dans la région de Maradi, proche du Nigeria. Selon le rapport du ministère nigérien de la Santé, 22% des malades de Maradi proviennent du Nigeria. John Lindon fait le point avec Idi Idiasu Mainasara, ministre nigérien de la Santé qui séjourne à New York.
Effectivement, cette épidémie qui a commencé le 5 juillet 2018, d'ores et déjà, avant même que les premiers cas ne surviennent, connaissant bien la zone qui est exposée, parce que c'est pendant la saison pluvieuse, généralement, on a parfois des cas sporadiques, parfois des cas efflandés. On a pris des dispositions pour positionner des entrants au niveau de cette région de Maradi. Et les entrants, c'est les différents kits de prise en charge du choléra, les différents kits de chloration de l'eau, les kits de sensibilisation de la population, et avec l'appui des partenaires, comme par exemple l'Organisation mondiale de la santé, les Médecins sans frontières, la coopération italienne, la coopération espagnole et la Croix-Rouge internationale. En tout cas, tous ceux qui accompagnent le gouvernement du Niger en matière de gestion de phénomènes sanitaires ont été impliqués. Et c'est ce qui nous a permis de positionner avant même le début, puisqu'il y a eu les prévisions météorologiques qui ont parlé des séries d'inondations en Afrique et particulièrement au niveau de notre pays. Je vous signale que les premiers cas de choléra viennent en tout cas d'un pays frontalier du Niger.
Vous avez lancé une campagne de sensibilisation dans les médias locaux. Est-ce que vous avez le sentiment que le message passe auprès des populations?
Oui, le message a complètement passé. Je dirais que c'est un réel motif de satisfaction pour le gouvernement et pour nous, le ministère de la Santé publique, parce que ce que les jeunes ne disent pas, à la date d'aujourd'hui, nous avons enregistré 3275 cas, 55 décès, avec un taux de létalité de 1,2%, ce qui est quand même important. Mais il y a plus de 3175 personnes qui sont traitées et guéries. Actuellement, nous avons moins de 50 malades sur les différents sites de prise en charge de ces cas de maladie. Ça veut dire que la gestion non seulement a été efficace et la riposte a été prompte et rationnelle.
Voilà, c'était Idi Idiasu Mainasara, ministre nigérien de la Santé.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
L'agence de presse sénégalaise est asphyxiée par les problèmes structurels en raison d'un manque de ressources financières et matérielles et à cause de son statut juridique. Jadis considérée comme la meilleure agence de presse de l'Afrique francophone, l'APS est aujourd'hui au bord du gouffre à quelques mois de son 60e anniversaire. Reportage de Seydina Abagué, correspondant de VOA Afrique à Dakar.
La douane de la presse sénégalaise agonise, elle manque de tout. L'agence de presse sénégalaise est sans ordinateur fonctionnel, sans fonds pour terminer l'année en cours, elle ne dispose même plus de connexion Internet. L'APS est à l'arrêt et ses travailleurs démoralisés sont en grève depuis une vingtaine de jours. Bamba Kassé est le secrétaire général de la section syndicale de l'agence de presse sénégalaise.
Si l'APS doit continuer à être gérée de la manière dont elle est actuellement, elle va disparaître. Aujourd'hui, le fil de l'APS, c'était un fil très familique, avec vraiment un minimum d'informations. Or, ça ne doit pas le cas. Simplement parce que la motivation également n'y est plus.
En pleine crise, l'APS a déjà licencié 44 contractuels et prestataires pour essayer d'équilibrer ses comptes. Le directeur général Tcherno Brahim Fall évoque un manque de financement chronique pour justifier cette situation.
On a cumulé donc beaucoup de dettes, beaucoup de passifs. Et de ce point de vue, nous sommes arrivés à un point qu'il faut aller vers la restructuration de l'agence de presse sénégalaise en la dotant de suffisamment de moyens, de ressources indispensables à son fonctionnement. fonctionnement.
La restructuration de l'agence de presse sénégalaise traîne depuis trop longtemps, d'après le journaliste Patrick Mendy. Soutien inconditionnel des travailleurs de l'APS, ce doyen de la presse sénégalaise estime qu'il est temps que les confrères se mobilisent pour éviter la disparition de la première source d'information au Sénégal.
Je pense que depuis au moins 20 ans, on parle de la restructuration de l'APS. Je crois qu'il est temps de franchir le Rubicon. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment aussi d'appeler les autres camarades qui sont dans le service public de marquer leur solidarité.
Du côté des autorités, on annonce des mesures pour faire passer l'agence de presse sénégalaise du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial au statut de société nationale. Le professeur Mustapha Samb est le président du conseil d'administration de l'APS. Il affirme que le chef de l'État s'est personnellement impliqué pour mettre fin à la crise qui secoue l'agence.
Le président a compris. Le président a voulu en faire une société nationale. L'État va augmenter considérablement le budget. En ce moment-là, l'APS va pouvoir mener une politique digne de son nom, capable de nous sortir de l'ornière.
Premier fournisseur d'informations au Sénégal, l'agence de presse sénégalaise vit des heures sombres et ses journalistes dénoncent des conditions de travail qui se détériorent de jour en jour. En grève totale depuis le 6 septembre, les travailleurs de l'agence espèrent une réaction concrète de l'État pour éviter une mort certaine à la doyenne de la presse sénégalaise. À Dakar, Seydina Abagbi pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En République démocratique du Congo, sur les 59 candidats aux législatives provinciales enregistrés à Beni dans le Nord Kivu, seulement 8 femmes, soit 13% contre 87% des hommes. Les femmes sont confrontées à un manque de visibilité dans les médias qui demandent parfois de grosses sommes d'argent pour des interviews. Nathalie Barjajoin, Mimi Angèle Condé, secrétaire générale du MLP qui se présente pour la circonscription Founa à Kinshasa.
La question des médias, c'est que nous devons comprendre. Il y a au Congo beaucoup de médias privés, des entreprises commerciales des médias, c'est-à-dire pour passer, vous devez payer. Mais qu'à cela ne tienne, il y a certaines chaînes qui nous invitent où nous passons aussi gratuitement, mais il y a certaines chaînes où pour passer à telle émission, des émissions qui vont jusqu'à 1 1500 dollars pour passer. Donc vous comprenez que la femme ne sera pas en mesure de passer dans ces émissions qui ont une forte audience, faute de moyens. Donc, la femme a besoin d'être soutenue du point de vue médiatique. Si les médias peuvent accompagner les femmes, les médias publics, par exemple la RTNC, si moi j'ai l'avantage de passer à certaines émissions, l'émission phare de la RTNC 2 sont des cloches, ce n'est pas l'apanage de toutes les femmes. Et là, nous disons à la RTNC de réouvrir encore sa porte pour permettre aux femmes de passer à des émissions pour assurer la visibilité des femmes. Il y a aussi d'autres chaînes privées qui peuvent emboîter les pas en faisant la discrimination positive pour permettre aux femmes de passer, de s'exprimer, pour que la population puisse comprendre que les femmes aussi peuvent faire quelque chose en politique et que les femmes aussi peuvent participer à la gestion de la chose publique dans notre pays.
Est-ce que vous pensez que les femmes seront plus nombreuses cette année que par rapport aux années précédentes?
Je doute fort parce que vous savez qu'il y a eu la discrimination de la loi électorale qui a introduit les seuils et les montants de la caution qui est très élevé. Vous savez que la pauvreté a un visage féminin dans notre pays, les femmes n'ont pas assez de moyens et faire face à ces cautions qui a été très élevée et les exigences du seuil a conduit à ce que je peux dire un double degré de contrôle pour que le nom d'une femme ou d'un homme soit retenu sur la liste d'un regroupement politique.
Est-ce que vous avez beaucoup de femmes qui vous suivent et qui vous soutiennent?
Oui, il y a beaucoup de femmes qui me soutiennent. Je dis aussi que j'ai trouvé des aînés en politique qui m'ont soutenu, qui m'ont coaché. Je peux citer Mme Eve Bazaï Bamassoudi, qui m'a encadrée, qui m'a coachée, qui est parmi les gens qui ont soutenu les femmes en République démocratique du Congo. Nous recevons aussi des dons venant de l'étranger pour essayer de nous stimuler, de nous pousser à demeurer dans cette lutte pour la place de la femme en politique et qu'ils continuent à nous soutenir, à nous faire confiance.
Voilà, c'était Maître Mimi Angèle Condé, secrétaire générale du mouvement Lumumbiste Progressiste, jointe à Kinshasa.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Khadija Saïd fait partie des 22 femmes africaines sélectionnées par le département d'État américain pour participer au programme AWEP, African Women Entrepreneurship Program, qui a eu lieu cet été. Elle est la fondatrice et directrice générale de Aiba Ya Africa, une société tanzanienne qui transforme le miel d'abeille naturel. Blanche Sanou nous dresse ici le portrait de celle qui se fait appeler Madame Miel.
Je m'appelle Khadija. Je viens de Tanzanie, la belle terre de Tanzanie. Je suis Madame Miel. Je vends du miel d'abeille naturelle. Le nom du miel est Hasali Yabibi. C'est du Swahili, ça signifie le miel de grand-mère. Nous achetons notre miel du corridor ouest de la Tanzanie appelé Tabora. Nous achetons avec des petits groupes de femmes afin de leur assurer un marché durable et aussi pour qu'elles réalisent qu'elles font partie du développement économique de la Tanzanie.
And to feel like they're part of the economic development of Tanzania. In Tanzania, we are rich in.
En Tanzanie, nous sommes riches en miel. Je voulais donc un produit alimentaire qui soit à l'image de la Tanzanie, mais pas seulement. Je voulais quelque chose qui puisse aussi sortir de la Tanzanie vers d'autres parties du monde.
Something that can come out from Tanzania to other parts of the world. I wanted to pack to change.
Mon but est de révolutionner l'industrie du miel, de la production locale à une production aux normes internationales. Et c'est ce que je fais, de l'emballage jusqu'à la qualité constante du produit lui-même. Et pour être honnête, le miel, ce n'est pas comme le sucre, ce n'est pas un produit indispensable, mais c'est un produit de santé. Ceux qui se soucient de la santé consomment du miel, car c'est nutritif. Cela reste une entreprise, donc il faut plaidoyer, faire des ajustements et des investissements. J'y ai déjà investi non seulement mon temps, mais aussi mon capital. Mais encore une fois, je crois que cela va payer un jour. Il y a eu des changements énormes dans ma vie et je suis très fière d'être Madame Miel. J'ai non seulement amélioré ma vie, mais j'ai aussi amélioré la vie des personnes qui travaillent pour moi. Non seulement les femmes chez qui je prends le miel. Souvenez-vous, quand j'achète chez elles, je leur donne des marchés durables. Je les responsabilise. Elles sont sûres de ce qu'elles font. Elles changent la vie de leurs enfants, de leurs familles et des personnes qui dépendent d'elles. J'ai embauché 15 personnes dans mon entreprise. Ça a changé leur vie, mais indirectement, elles ont aussi changé la mienne. Asalia Bibi va conquérir le marché, pas seulement le marché africain, mais dans le monde entier. Je n'ai même pas peur. Je n'ai aucun doute, ce sera la meilleure marque de miel au monde.
Raïssa Girondin avec vous. Dans Washington Forum ce jeudi, l'Afrique à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris la parole dans le Palais de Verre de New York pour faire entendre leur voix et point de vue sur les crises du monde et du continent. Quels ont été les discours les plus marquants? Quel financement et quel avenir pour les missions de maintien de la paix en Afrique? Comment œuvrer pour la paix alors que l'Afrique n'a pas de siège permanent au Conseil de sécurité? Et enfin, quelle solution pour la crise migratoire? En direct de New York, Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Cheikh Thiraud. À la console, Joe Gill. À la présentation, Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Spent the weekend getting even, ooh.
The luxury.